Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est artiste plasticienne.
Bonjour Eva Jospin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'artiste dont tout le monde parle. Vous avez deux expositions en ce moment, Galleria au musée de la Chasse à Paris et de Rome à Giverny, au musée des impressionnistes à Giverny. Vous aviez exposé il y a quelques années dans la cour carrée du Louvre. Ça avait fait 300 000 visiteurs. Vous avez eu droit ces dernières semaines à des portraits partout dans la presse, Le Monde, Le Figaro, Libération, avec à chaque fois le même titre ou presque. Eva Jospin fait un carton. Eva Jospin, ça cartonne. Jeu de mots autour. C'est pas seulement un carton. Attention, il y a un jeu de mots autour du matériau de vos œuvres, puisque c'est le carton. On va en parler beaucoup, puisque c'est ça votre spécificité. Mais d'abord, être ainsi la nouvelle égérie du monde de l'art, ça vous plaît, ça vous angoisse, ça vous met la pression?
Petite pression, mais après, les artistes, on veut tous durer, c'est ça notre problème. Moi, ça fait très longtemps que je fais ça, donc, et je veux le faire pendant très longtemps, donc je suis très heureuse de l'attention et j'espère que...
Mais vous avez peur que ça s'arrête, quoi.
Moi, ce qui compte surtout, c'est que je puisse continuer à faire mes projets. J'ai pas forcément besoin d'une telle attention tout le temps. Ce qu'il faut, c'est que je puisse créer, exposer et faire des œuvres. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important.
Vous voulez durer, mais vous utilisez un matériau qui, par définition, est périssable, le carton.
C'est vrai qu'il va pas forcément traverser 5 siècles. Mais enfin, ça va pas non plus se détruire en 4 secondes. Il suffit de pas le mettre sous l'eau, quoi. C'est surtout ça.
Mais la durée de vie du carton, c'est combien? 100 ans?
Oui, je pense, à peu près. Après, les œuvres qu'on conserve, c'est celles qu'on veut conserver et pas forcément celles qui sont faites dans des matériaux pérennes.
Alors le carton, pourquoi le carton? Ce matériau d'apparence triviale, pas très noble, un peu cheap, à la base de vos œuvres. À l'origine, c'était une question économique.
C'était à la fois une question un peu économique et aussi une volonté de liberté, c'est-à-dire d'utiliser un matériau pour faire des sculptures beaucoup plus grandes que celles que j'étais en train de réaliser juste avant, et que j'ai pas de problème de coût, que j'ai pas besoin d'attendre des financements, des lieux pour le faire. Et c'était l'idée que la sculpture devenait un peu comme le crayon, c'est-à-dire quelque chose qui est facile à utiliser et qui ne me mette pas de limites.
Parce que vous aviez des envies pharaoniques, vous l'assumez, vous aviez envie d'une grande œuvre.
J'avais envie de faire des choses de grand format, et il y a aussi ce côté désacralisé du matériau qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes angoisses, la même peur, la même révérence quand on est face à du carton que quand on est face à du marbre, où on se dit « Oh là là, mon Dieu, je vais faire une catastrophe ». Si c'est pas bien, on recommence, on arrache, on jette, on reprend, et il y a une capacité de reprise des propres œuvres qui est permanente, comme dans la peinture, et ça c'est très agréable.
Au début, on vous a reproché l'utilisation du carton. C'est vrai qu'un commissaire d'exposition vous a dit « Vous ne venez pas du tiers-monde, on ne comprend pas que vous utilisiez du carton ».
Oui, mais après, il faut voir aussi que dans un parcours d'artiste, il y a plein de commentaires au début, et puis après, les gens le pensent peut-être, mais n'osent plus vous le dire en face.
il a quand même rajouté « Mettez des plantes en plastique, ça fasse plus contemporain ».
C'était une vision d'il y a 10 ans. Ça a changé depuis.
Ce sont vos forêts gigantesques qui vous ont rendu célèbre. Pourquoi la forêt? Qu'est-ce que ça évoque? C'est un lieu qui fait rêver, c'est un lieu qui fait peur aussi.
Mais la forêt, en fait, c'est vraiment le monde de l'infini, de la multitude. C'est certainement le monde du vivant le plus divers, le plus fou, puisque une partie est révélée, une partie est entièrement cachée. Et en plus, c'est un sujet qui est particulièrement contemporain, parce que on a évidemment pris conscience du rôle des forêts. Et en même temps, c'est aussi un sujet qui parcourt les siècles, parce que ça a traversé voilà les mythes, les contes, ça a symbolisé l'inconscient au moment de la psychanalyse. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'analogie, de référence et de symbole complètement incroyable, et en même temps, un moment où la science commence à découvrir des choses sur les forêts aujourd'hui qu'on ignorait il y a 20 ans.
Mais qu'est-ce que vous espérez que vos forêts provoquent chez le visiteur? Que ça le questionne sur lui-même? Que...
Je crois qu'en fait, dans les œuvres que je fais en général, et pas seulement la forêt, parce que j'utilise aussi un peu l'architecture, enfin des éléments d'architecture, ce que j'aime, c'est l'idée que les gens vont pouvoir se projeter à l'intérieur, un peu habiter les œuvres, et que ça crée une rêverie en eux qui soit extrêmement intime et personnelle, et que moi, je ne cherche pas du tout à diriger.
Vos forêts sont vides d'animaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes, mais vous avez une anecdote assez marrante. Vous dites qu'il y a parfois il y a des enfants qui se baladent dans vos œuvres et qui vous disent « j'ai vu des animaux », alors qu'il n'y en a pas.
Ben, y a des ombres, et parce que je crois qu'on se, c'est ça qui est
l'imaginaire,
formidable.
En fait.
Avec l'imaginaire, on se crée son propre film. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les choses soient pas déterminées, et du coup, on peut imaginer une rencontre possible dans ces bois.
La forêt, la nature, forcément, on vous demande s'il y a un message écologique, et vous dites non.
Non, parce que je pense que si je commence à dire que c'est un message écologique, ça devient une œuvre politique. Et moi, je fais une œuvre qui est traversée par ces questions. Évidemment, on est complètement poreux à son époque, et je l'ai été quand j'ai saisi ce sujet. Mais ça n'est pas le seul sujet qui traverse mes œuvres. Et de toute façon, je préfère laisser les choses ouvertes et pas les refermer sur une seule thématique.
Je trouverais atroce que toutes les œuvres soient politiques, dites-vous-même.
Oui, parce
dans
que
Télérama.
Absolument, parce que je pense que l'art doit rester l'espace de la liberté et le lieu du dérangement, le lieu du beau parfois, mais du laid, du bizarre, de plein de choses. C'est ce qu'ont conquis tous les artistes durement pour trouver cet espace, et je crois qu'il doit le rester comme ça. Et malheureusement, tout ne peut pas être politique ou écologique. On a beaucoup d'autres choses à se dire que ça.
Eva Jospin, vous dites « Petite, j'étais mégalo, je me voyais un grand destin. J'étais même un peu prétentieuse. »
Oui, mais bon, l'adolescence m'a calmée. Hein, donc voilà.
C'est-à-dire qu'ensuite, vous avez perdu votre confiance en vous, la confiance que vous aviez gamine.
Oui, je pense que quand on est enfant, on est un peu rêveur, on a une innocence aussi qui fait qu'on ne voit aucune limite. Alors après, on m'en a pas mise aussi, hein. J'ai eu la chance d'être bien accompagnée et d'avoir des parents qui ne me rabaissaient pas. Mais c'est vrai qu'après, à l'adolescence, cette belle confiance, surtout chez les filles, parfois, elle s'évapore un peu. Il faut la retrouver, la regagner tranquillement. Et moi, j'ai choisi le travail pour faire ça.
Et vous la regagnez. Bon, le succès, ça aide. Mais vous dites, à un moment, j'ai compris que il fallait pas être... on pouvait réussir en ayant des fragilités, en manquant de confiance en soi.
Mais c'est très important parce qu'en fait, quand on est artiste, le principe, enfin, ce qu'on fait toute la journée, c'est faire des œuvres dans son atelier. On n'a pas besoin d'avoir confiance en soi pour ça. C'est une activité cérébrale et manuelle. Par ailleurs, dans la vie, il faut avoir un minimum de confiance ensuite pour montrer son travail, et ça peut se conquérir avec le temps. Mais dans le travail, dans les idées, on n'est pas forcément obligé d'être un super vainqueur et avoir une confiance en soi absolue.
Au Beaux-Arts ou dans la société, vous dites que la société vous apprend que le génie est forcément masculin. Les grands artistes sont des hommes, les grands chefs sont des grands chefs cuisiniers, les grands musiciens sont des hommes. Appris ça, enfin, on vous a...
C'était le monde tel qu'il était au moment où moi je faisais mes études. Et c'est vrai que ce qui était étonnant, c'est que quand je me suis diplômée des Beaux-Arts en 2002, donc il y a presque 20 ans, et on était déjà une majorité de filles à être à l'école des Beaux-Arts, mais rien n'était prévu pour nous. On continuait à perpétuer ce monde un peu fait pour les hommes, mais tout ça est en train de bouger aujourd'hui énormément.
Et pour vous, faire des œuvres monumentales, il y a quelque chose de transgressif pour une femme de faire une œuvre monumentale, dites-vous?
Je me demande si au fond, oui, c'est pas un plaisir de s'emparer de ça, mais en réalité, on est surtout pris par les choses qu'on veut faire, et on se pose pas forcément la question de si on est un homme ou une femme. On a des désirs et des envies, et on cherche à les accomplir.
Vous dites, j'ai été accompagnée par mes parents, qui ne m'ont pas rabaissée. Votre père, c'est Lionel Jospin. Être ramenée à ça, est-ce qu'être la fille de Lionel Jospin, ça a été un problème ou un atout pour vous?
Ça a été les deux, parce que j'ai la chance d'avoir un père que j'aime et qui était un gentil père. Donc ça, c'est une chance dans la vie. Et après, le regard des autres, parfois, sur ce nom peut être encombrant. Mais on a tous notre petit quelque chose, notre petit bagage. Celui-là, c'est le mien, c'est pas très grave non plus. Hein.
Ouais. Mon nom n'a plus été un problème à partir du moment où j'ai décidé que cela n'en serait plus un.
Voilà.
C'était quand, ça?
Je dirais au moment où justement j'avais besoin de commencer à vraiment montrer mon travail. C'était difficile parce que j'étais timide et je me suis dit, allez, faisons simple.
Faisons simple. Galleria au musée de la Chasse, c'est à Paris jusqu'au 20 mars. Eva Jospin de Rome à Giverny, au musée de Giverny, c'est jusqu'au 16 janvier. Deux méga expositions, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et belle journée.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
France Inter.